Lundi 3 mars 1997, cours Shirashirim Raveman à Montevideo.
Ad, jusqu'à ce que Shiafua Hayom, notamment jusqu'à ce que le jour respire ou que le jour expire, Venasu Atzelalim, et que s'en sont allés les ombres. Sauf, retourne au temps. Demé le chadodi et ressemble l'itzvi au chevreuil, au le offer à Ayalim ou au faon Ayalim des cerfs ou des biches, à la Revater, notamment sur les montagnes Vater qui séparent Betarim, les morceaux. De l'autre côté des montagnes, on dirait en français. Alors, c'est le verset qui suit, le verset qu'on avait vu l'autre fois, qui était Dodi, Liva, Nilo. Que tout ce rapprochement qui existe entre Dieu et le peuple juif, Ad Shiafu Achayon, c'était jusqu'à ce que le jour expire, jusqu'à la fin du jour. On va voir qu'il s'agit. Le jour, c'est le jour du don de la Torah. Vena su atzlalim. Les ombres s'en sont allées, ça veut dire qu'il fait nuit. Sauve, retourne-toi, va-t'en. Demé le chalitzvi comme un tzvi au ferayalim à la rivate. Rachidi, Moussav le mikra shel mala emenu, dodi li va'anilo. C'est la continuation de ce verset. Dirachi. Shiafua Rayom. C'est le jour qui est parti, Venasu Atzlalim. Les ombres au pluriel. Rachidi. Chatanu Baegel. Chatanu Bameraglim. On a fauté au Vaudor, on a fauté lors de l'affaire des explorateurs. Venasu Atzelalim, s'en sont années les ombres, Zechuyot Amaginot Alenu Paraktiolo. Zechuyot, on va voir ce que c'est, quel Zechut, les mérites qui nous protégeaient s'en sont allés, et on est resté tout seul. Sauf de Melchadodi. Donc c'est comme si on disait, je comprends que tu te détournes et que tu t'en ailles. Garamtilo listalek me'alai. Rachidi garamtilo, c'est moi qui ai entraîné. Le istalek me'alai, que Dieu s'en aille de dessus de moi, à la rima mouflagim imeni, vers les montagnes, à mouflagim imeni, dont je suis séparé. C'est-à-dire qu'il me sépare du reste des nations. Donc finalement, que veut dire ce verset ? Dodi liva anilo, ça marchait bien, mais un seul jour. Le jour du matin de Torah. Dès le lendemain, en vérité c'était 40 jours après, ça a tout de suite tourné au vinaigre deux fois. Premièrement avec la faute du Vaudor, et ensuite avec la faute des explorateurs. Alors on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que la faute du Vaudor et qu'est-ce que la faute des exploiteurs? La faute du Vaudor, on a déjà expliqué plusieurs fois. On va le réexpliquer. Ce n'est pas une faute de ce qu'on appellerait la Avodazara classique. Avodazara, c'est d'utiliser un élément naturel ou fabriqué sur lequel on pourrait compter et qui nous donnerait des assurances contre les liens qu'on pourrait avoir avec Akadosh Baruch Hu. C'est un refuge. Je me réfugie derrière des lois de la nature qui font qu'on ne peut pas m'atteindre. Je me réfugie derrière quelque chose que je connais et qui fait que j'ai un pouvoir. Je ne suis pas n'importe qui et de nouveau on ne peut pas m'atteindre. Ça c'est la Avodah Zara classique. Le Ramban, Nachmané, il explique. La faute du Vaudor, c'est pas du tout la Avodah Zara classique. Pourquoi ça n'est pas la Avodah Zara classique? Il dit parce que il est écrit dans le verset, c'est dans la paracha qu'on a lu il y a 15 jours, lorsque les enfants d'Israël ont fait ce veau d'or, ils ont dit une phrase qui montre quelles étaient leurs intentions. Ils ont dit « Ele Elohecha Israël, voici tes juges ou tes dieux Israël, qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Dit le Ramban, nous le répétons dans la Haggadah, et qui est pas mieux placé que les Bnei Israël pour savoir que c'est Dieu qui a fait sortir le peuple juif d'Égypte, comme on dit, lo al yede malach, pas avec un envoyé, velo al yede shaliach, pas avec un intermédiaire, mais c'est pour ça que la fête de Pessah s'appelle Pessah, asher pasach al bate Bnei Israël. Dieu a sauté au-dessus des maisons juives. Donc on sait très bien que c'est Dieu qui a provoqué la sortie d'Égypte. Pourquoi maintenant faire un veau d'or et dire que, a posteriori, c'est lui qui a permis aux enfants d'Israël de sortir d'Égypte? Il leur emballe une chose très simple. Moshe Rabbeinu est monté pour 40 jours. Les 40 jours s'étaient écoulés d'après leurs calculs. À partir du moment où ils s'étaient écoulés, ils se sont dit, déjà, le fait de monter sur le mont Sinaï, Moshe Rabbeinu c'était quelqu'un qui faisait partie un peu de leur monde, de notre monde, et un peu du monde d'en haut, du monde spirituel. Pourquoi? Parce que lui-même a dit pendant ces 40 jours, Lechem lo achalti, Umaim lo shatiti. Je me suis retrouvé 40 jours sur cette montagne, je n'ai pas eu besoin ni de manger, ni de boire. C'était déjà une chose qui est difficile à comprendre. Déjà, Aaron et Myriam, le frère et la sœur de Moshe Rabbeinu, lui ont reproché le fait qu'il ait quitté sa femme. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas exactement où se situait le personnage. On avait compris qu'il était un espèce d'intermédiaire entre le spirituel et le matériel. Ça, c'est ce qu'on savait. À partir du moment où on n'avait plus cet intermédiaire, on était obligé de recréer un lien entre le matériel et le spirituel. Maintenant, on va ouvrir une parenthèse. On a déjà dit souvent le fait que le spirituel et le matériel puissent cohabiter, puissent vivre ensemble, ce qu'on appellerait la collision ou la corrélation ou tout ce que vous voulez entre la neshama et le gouf, entre l'âme et le corps. C'est quelque chose qui, pour nous, est incompréhensible. C'est pour ça qu'on appelle ça Pélé. C'est pour ça que dans la bracha de Asher Yatzar, on dit Rofé Chol Bassar. Dieu, c'est celui qui soigne l'humain. Pourquoi? Parce que c'est une machine dont on comprend qu'elle est extrêmement complexe. Ou Mafli La Asot. Et ce qui fait faire cohabiter le spirituel et le matériel, c'est quelque chose de mafli, d'extraordinaire. Mais ce Pélé, cette chose extraordinaire, lorsque c'est chez nous, on assume. Pourquoi ? Parce qu'on vit avec. Mais objectivement, si nous-mêmes on nous demandait comment est-ce qu'on peut lier le matériel et le spirituel, on ne comprendrait pas. Voilà le seul homme, Moshe Rabbeinu, qui fait partie du monde spirituel, puisqu'il se permet de rester 40 jours sur une montagne, sans provision. D'un autre côté, il a l'air de tout le monde. Et on voit qu'il n'est plus là. Dit le Ramban, les enfants d'Israël ont compris qu'entre Dieu et le peuple, il était obligé d'avoir quelque chose qui fasse le lien. Pour l'instant, c'était Moshe Rabbeinu. Ils ont pensé que Moshe Rabbeinu était mort. Donc ils ont dit, bon, on va recréer un lien entre les deux. Lorsqu'ils ont dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, ce n'était pas pour dire à la place de Dieu. C'était pour dire celui qui est l'intermédiaire entre les forces célestes et le physique. On a retrouvé l'intermédiaire qui, au lieu d'être un homme, peut très bien être fait de matière. Et c'est ça le veau d'or. Pourquoi le veau? Parce que tout le monde connaît que Yosef a tzadik, l'emblème de Yosef, la bracha que Yosef a reçu de Yaakov, c'est Aleishur, Shor, le bœuf, le veau, c'est l'emblème de Yosef. Yosef, nous-mêmes, on a déjà dit que c'est celui qui fait le joint entre les pères et le peuple. Au moment où Dieu est apparu sur le mont Sinaï, il est apparu avec ce qu'on appelle le Kiseh HaKavod. Mot à mot, on traduirait ça en disant c'est le trône divin. Et sur ce trône divin, il y avait l'emblème de Yosef, le Shor. Donc ils se sont dit, c'est très bien. Yosef, c'est celui qui a fait la jonction avec le nouveau peuple d'Israël. Yosef, c'est celui qui est mentionné à la fin de Bereshit et au début de Shemot. On avait expliqué pourquoi. Parce que c'est la force du peuple juif que de pouvoir s'adapter aux Avot, Avraham, Isaac et Jacob, aux principes qui sont ceux du peuple juif. Dit le Ramban, ce n'était pas tellement mal imaginé. On aurait pu concevoir la preuve, c'est qu'il existait dans le Mishkan, dans le sanctuaire qui était dans le désert et après dans le Beth Amidash, une sculpture qui s'appelait les Kérouvim. En français, je crois qu'on dit les chérubins. Dont on pouvait savoir la position du peuple juif par rapport à Dieu, de la façon dans laquelle ils étaient tournés l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'on voit que la matière peut traduire ce qu'on ne pourrait pas percevoir de ce qu'il y a de spirituel et qu'on doit savoir. Donc c'était pas bête de faire ce veau d'or. Alors vous allez me demander, alors quelle était la faute? Parce que tout était tellement bien fait. Et le Ramban, la faute, c'est que Akadosh Baruch Hu a promis que ce soit Moshe Rabbeinu qui conduise les enfants dans le désert, les enfants d'Israël dans le désert, et qui les amène en Eretz Israël. Lorsqu'on t'a dit quelque chose, on te dit une promesse, et que tu vois que ça ne se réalise pas, tu as une question. Vis avec ton problème. On n'a pas besoin de pouvoir résoudre chaque problème. Celui qui doit pouvoir résoudre chaque problème, c'est parce que lui-même a un problème. On va essayer de savoir quel est le problème. Quelle était la faute des explorateurs? Dans la Gemara, dans le traité de Sota, la Gemara explique que la faute des explorateurs, c'était... Il est écrit « Vayelchou, Vayavou ». Ils sont partis et ils sont revenus. Ils sont revenus avec la même vue, avec les mêmes idées, avec les mêmes pensées, qui étaient les leurs au moment où ils sont partis. Dit le monsieur Atécharim, il explique, il dit voilà, avec quelle pensée ils sont partis. Avant que la pensée de se dire, il y a un ordre nouveau qui va s'installer. Et on ne connaît pas notre place dans l'ordre nouveau. Parce que vous savez que chacun, c'était le prince de la tribu, c'était les Nessim, c'était les grands de la tribu. Et une fois que le peuple juif se serait installé sur la terre, la notion de tribu allait s'estomper pour donner la place à la royauté, pour donner la place au Sanhédrin. Chacun savait qu'il y avait à avoir du nouveau. Et quelle serait leur place dans le nouveau, ils ignoraient. C'est ça, Vayelchou. Ils sont partis avec un a priori. On n'a pas besoin de ça. On ne connaît pas le changement, on n'a pas envie du changement. On n'a pas envie d'institution. Tout est très bien comme ça. Évidemment, celui qui a la tête, il est toujours le mieux. Il dit, puisque ils sont allés avec cette pensée, tout ce qu'ils ont vu les a confirmés dans ces pensées-là, dans ces idées-là. Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu des gens très forts. Ils ont vu des villes fortifiées. Ils ont vu un risque énorme. Un risque de guerre. Et c'est vrai que la guerre a mis 7 ans. Après, pour partager tout ça, pour s'approprier tout ça, il ne suffit pas de conquérir. On sait que les conquêtes, ça peut se retourner contre vous. Il faut aussi savoir où absorber les populations, où chasser les populations. Donc, ça a duré finalement encore 7 ans. Donc ils n'avaient pas si mal vu. 14 ans de guerre et de lutte. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va risquer ? La survie du peuple juif, on va le faire entrer dans une guerre. Tout ça pour quoi faire ? Parce qu'il faut changer d'ordre. On va rester avec le même ordre. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces deux démarches ? On va aller plus loin encore. Lorsque le peuple juif, on lui a annoncé qu'il était impossible de conquérir la terre d'Israël, parce que les Cananéens étaient trop forts. Ils avaient une armée puissante. Le peuple juif n'avait rien. Ils sont bien pleurés. Ça y est, on est sorti d'Égypte, on est condamné au désert, ou alors on va périr à la guerre, on a tout perdu. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre cette démarche-là et la démarche du veau d'or ? On voit qu'il y a une chose de commun. C'est que devant une nouvelle situation, lorsqu'on ne sait pas s'adapter à la nouvelle situation, on a deux types de réactions qui en vérité sont la même réaction. Ou on prend les choses en main. Et carrément, on dit, voilà, on a trouvé la solution. Ou alors, on dit qu'il n'y a pas besoin de solution. Il n'y a pas besoin de changer, tout va bien. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ? Vous savez que le Rambam, Maïmonide, appelle les midot, les défauts, il les appelle des déot, des idées. Lorsque j'ai un problème de comportement, ça n'est pas seulement un problème dans le comportement. C'est qu'on a un problème au niveau des idées. C'est qu'on accepte des idées, on intériorise des idées qui sont fausses. Si quelqu'un vivait avec des idées justes, il se comporterait toujours bien. Lorsqu'il n'arrive pas bien à se comporter, c'est parce qu'il a une mauvaise idée quelque part. Est-ce que la mauvaise idée vient du mauvais comportement ou le mauvais comportement vient de la mauvaise idée ? Ça, on ne sait pas. Ça doit être les deux, une fois comme ça, une fois comme ça. Mais il est sûr que si on remet l'idée au fixe, il est difficile pour un homme de se comporter toujours au contraire de ce qu'il pense. Donc si on remet les idées et on remet les pendules à l'heure au niveau des idées, normalement, on devrait avoir les pendules à l'heure au niveau des comportements. Comportements que nous appelons midot. Bien que midot veut dire qualité ou défaut, ici on appelle les midot raot, c'est-à-dire les mauvaises qualités. En français on appelle ça des défauts. D'où est-ce que viennent ces midot, ces mauvaises midot, ou ces mauvaises déot? D'où est-ce que ça vient? Ça vient de l'échec. Ça veut dire que chaque fois que je me trouve dans une situation où j'appréhende l'échec, ou peut-être je suis vraiment en échec, je n'arrive pas à me retrouver dans cette situation. Et je suis obligé de biaiser. Et c'est ça ce qu'on appelle les mauvaises midotes. Quand tout va bien, tout le monde a de bonnes midotes. En situation d'échec, c'est là que se révèlent les mauvaises midotes. Qu'est-ce qu'on appelle une situation d'échec? C'est une situation d'abord que je ne connais pas. Ou alors, dont je sais qu'elle va provoquer des questions dont je n'ai pas les réponses. Ou alors dans une situation où je me trouve en état d'infériorité. Toute situation qui fait que, ne m'étant jamais adapté à ce genre de situation, je ne sais pas comment la prendre. On va prendre l'histoire du Vaudor. Il n'est pas facile de vivre avec des questions. C'est pas facile. Mais qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens ne savent pas vivre avec des questions et sont obligés de donner des réponses? Moi, je ne parle pas vis-à-vis du bon Dieu. Vis-à-vis des autres. Moi, je vois quelqu'un qui a un comportement qui ne me convient pas. J'ai une question. Je ne suis pas obligé de faire la réponse. Il est méchant, il est fou, il est bête. Je peux rester avec une question. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à rester avec la question? Si on essaie d'étudier pourquoi, on verra que la plupart du temps, on n'arrive pas à rester avec des questions, parce que notre stabilité ne vient pas de nous-mêmes, elle ne vient que des situations qu'on vit. Mais si la stabilité venait de nous-mêmes, on pourrait vivre avec des questions. Je vous donne un exemple. Vous avez quelqu'un qui est un joueur. Il y a des gens qui jouent. Il y a le joueur plus honorable, moins honorable. Le joueur, lorsque c'est un défaut. Les gens ne s'arrêtent pas de jouer aux échecs, ne s'arrêtent pas de jouer au casino. Les gens jouent pour le cabot, les autres jouent pour l'argent. Un joueur. Allez lui parler de politique. Ou aller lui soumettre une question métaphysique. Il va vous dire, c'est une bonne question, c'est vrai. Et il va très bien vivre avec toutes les questions du monde. La preuve, il va vivre avec une question fondamentale, qui est, comment je vivrai demain? Ça ne m'inquiète même pas. Il est dans son jeu. Il est pris par quelque chose. L'exemple est mauvais, pourquoi? Parce que c'est une stabilité qui est néfaste. On va prendre un deuxième exemple. Nous, parmi nos voisins, on avait quelqu'un, un retraité, qui était très gentil, souriait à tout le monde, qui était gentil avec tout le monde et rendait service. Ça m'intéresse de savoir pourquoi lui n'était pas égoïste. C'est que la plupart des gens ont peur de vous dire bonjour. Parce que ça, on ne sait jamais. Peut-être qu'il va me demander l'heure, après il va me demander autre chose. On ne sait pas, donc on a peur. Je n'avais pas peur. Alors je lui ai demandé, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il m'a amené chez lui dans sa cave. Il avait une cave, c'était peut-être la moitié de cette salle. Il devait avoir une quarantaine de trains électriques qui tournaient, jour et nuit. Avec un embryon d'ordinateur qui réglait les aiguillages Combien d'heures vous passez là-dedans? Voilà. On ne peut pas passer plus que 16, 17, 18 heures, mais sinon on le ferait. Quelqu'un comme ça, il est dangereux pour personne. Il est gentil avec tout le monde. Il vit avec toutes les questions du monde. Vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on trouve seulement des exemples comme ça? Parce que chez tous les gens normaux, personne n'arrive à vivre avec des questions. Pourquoi? Parce que ce genre de stabilité n'est pas estimable pour nous. Et la vraie stabilité, on ne l'a pas. En quoi concerne cette stabilité? Vous savez qu'il y a un mot qui entraîne le monde entier, qui fait vivre le monde entier, qui fait rêver le monde entier, qui fait pleurer le monde entier, c'est le mot réussite. On est obligé de réussir. Celui qui pense que quelque part il a réussi et qui se rend compte qu'il réussit, il a une stabilité qui fait qu'il peut vivre avec beaucoup de questions. Mais celui qui pense qu'il n'a pas réussi, qu'il a encore quelque chose à prouver, il est impossible de vivre avec des questions. Plus quelqu'un a un programme, sait où il va, plus il est capable de se mesurer aux questions qui sont les pires, parce que finalement, elles ne peuvent jamais le remettre en cause lui-même. Et il faut savoir qu'à part certains faits graves, très très graves dans la vie, il n'y a rien qui remette en cause la personne. On peut remettre en cause son statut social, on peut remettre en cause ses idées, on peut remettre en cause ce qu'il représente vis-à-vis de l'extérieur. Mais lui-même, on ne peut pas le remettre en cause. Parce que finalement, ne pas savoir, ne pas être sûr, si on n'a pas cet objectif de réussite qu'on est obligé d'afficher quelque chose vis-à-vis de l'extérieur, et que celui qui a les questions, les problèmes, ne peut pas afficher, qu'est-ce que ça peut faire? Je donne un exemple très simple. Vous allez poser une question à quelqu'un dont c'est le métier de savoir la réponse. Il va être intelligent, il ne va jamais vous dire la réponse immédiatement. Il va d'abord vous dire, je ne sais pas, il faut consulter. Si vous donnez la réponse tout de suite, d'abord la consultation, vous direz que il avait la réponse tout de suite, il n'y a pas besoin de payer si cher. Il va même vous faire revenir deux ou trois fois pour vous demander des précisions. Il va gonfler l'affaire. Et à la fin, il va vous établir une solution. Mais il va vous dire, il y a tant et tant de restrictions. Il est possible que je me trompe. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Il va tout faire pour se dégager. Et pour que si jamais la réponse n'est pas bonne, il vous a bien dit que lui, il n'avait pas la réponse. Ça, c'est dans son métier. Mais dans sa vie, à la même personne, on va lui poser une question. Il va tout de suite savoir, il va tout de suite répondre. Il va tout de suite s'engueuler avec celui qui ne pense pas comme lui. Il va être sûr de tout, il n'aura que des certitudes. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le même individu, d'un côté soit comme ça et de l'autre côté soit comme ça? C'est que d'un côté, il a une stabilité. C'est quoi? Il a un but, c'est son métier. Et il faut l'exercer comme il faut. Et celui qui sait tout dans son métier, il a l'air d'un imbécile. Alors il est capable d'avoir l'air d'un imbécile. Et même de valoriser le non-savoir au début. Parce que c'est ça sa stabilité. Mais dans la vie, il va s'en prendre à tout le monde. Pour des bêtises, pour une idée comme ça, une idée comme ça. On va se bagarrer pour des choses dont on n'est pas sûr. Quelqu'un vous a posé une question, vous réfléchissez même 15 secondes, tout de suite, on répond. Après, on regrette d'avoir répondu. Après, on regrette de s'être lancé dans le débat. Mais on se lance quand même. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on n'a pas de stabilité derrière qui permette de rester en arrière. Quelle est la stabilité qui doit permettre à l'homme de rester en arrière? C'est d'avoir un programme, de savoir à qui il a donné des comptes, de savoir se situer par rapport à ses ambitions, par rapport à ses buts, de bien savoir où il en est. On n'est pas obligé d'avoir toujours tout gagné. À partir de ce moment-là, il sait se situer par rapport à plein de questions qui peuvent même le remettre en cause totalement. Pourquoi? Parce que d'un autre côté, il a acquis une stabilité. On ne peut acquérir une stabilité que de deux choses. Une, où on a réussi. On n'a pas tous réussi et tout le temps dans toutes ces entreprises. Ou alors lorsqu'on a un programme, un étudiant de 5e année de médecine, lorsque vous avez demandé quelque chose, il peut vous dire, ça en apprend en 6e année. Les chachamim appellent ça lo alecham lachaligmor. Tu n'es pas obligé, toi, de résoudre tous les problèmes. Mais pourquoi est-ce qu'il peut se permettre de répondre que ça en apprend en 6e ou 7e année? Parce qu'il a un programme et il est qu'en 5e année. Si on sait où on en est dans tous les domaines, et que ce qu'on fait, on sait qu'on a un programme, et qu'il faut faire certaines choses, et ça n'est pas de nos honorables de ne pas les avoir faites, et c'est honorable de les avoir entreprises, on n'a plus ces problèmes. Le clan d'Israël s'est élevé à un niveau qui est celui de Naaseh v'Nishma. C'est un très grand niveau, c'est pas un petit niveau. Quelqu'un soit capable de dire, j'accepte la Torah telle qu'elle est, je la connais pas, mais le bon Dieu ne va pas me vouloir du mal, j'accepte. Ok. Le non-juif, à chacun à qui on a dû demander, là il a demandé qu'est-ce qui a marqué, l'autre qu'est-ce qui a marqué, chaque fois qu'on lui dit quelque chose, ça ne plaisait pas, ils ont refusé. Ça veut dire que dans la vie du peuple juif, il existe une mida, il existe un comportement, il existe une qualité qui est celle de savoir vivre avec des questions. Je ne connais pas les 613 mitzvot. Mais si j'attends d'être juif, d'avoir étudié tous les 613 mitzvot, au niveau du pshat, après au niveau de ce qu'on appelle le drash, midrash, après le remez, après le sod, toute la kabbalah. Si j'attends des juifs pour savoir tout ça, c'est pas d'une vie que j'ai besoin, c'est de plusieurs vies, donc chacun se rend compte. Et le peuple juif s'est rendu compte que, avec le bon Dieu, on n'avait pas besoin de marchander, et que s'il nous proposait quelque chose, on le prend, et ensuite on étudie pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est pas simple. Quelle va être la difficulté maintenant? C'est que chaque fois on va se dire, est-ce que j'ai fait le bon choix? Peut-être que ça va être trop dur. Peut-être que je ne vais pas comprendre. Peut-être que c'est mal adapté. Alors on a toujours la réponse. Le bon Dieu ne va pas te proposer quelque chose qui n'est pas pour toi. C'est vrai. Mais d'un autre côté, on voit celui à côté, il n'a pas tous ses problèmes. Lui, on lui a proposé, il a refusé, il vit très bien. Ça, c'est le déséquilibre qui existe dans le peuple juif. La Gemara raconte qu'un non-juif, un coutier un jour, a vu Rava. Rava, il venait le matin au Bétamirach, il s'asseyait et il mettait les mains en dessous des genoux. Il restait 2 heures, 3 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures. Quand il se relevait, il avait des problèmes de circulation. Alors il lui a dit, Ama Pezizai, vous êtes un peuple pressé dans le sens. Vous faites quelque chose sans réfléchir. De Kadmitu, Pumaihu, le Adonaihu. Kadmitu, Kodem. Vous avez fait précéder, pour maïchou, votre bouche, le adnaïchou, à vos oreilles. Regarde où tu en es maintenant. tu es obligé d'étudier la Torah. Regarde dans quel état tu es. Tout ça, parce qu'on t'a posé une question. Et au lieu d'attendre qu'on te dise ce qu'il y avait dedans, tu as répondu oui. Pasiz, ça veut dire, tu allais vite. Il fallait réfléchir. On a toujours ce problème-là. Et si on était trop vite dans la démarche, on n'avait pas bien réfléchi. On a aussi la réponse. Mais on ne va pas avoir une vie d'entraînement pour après avoir la vraie vie. Parce que ce qui serait plus facile, c'est de vivre d'abord une vie. On voit tous les erreurs, on voit ce qui est faux, ce qui est vrai, après on commence. Ça, on ne peut pas faire. Donc tout écouter sans rien faire, on ne peut pas. Donc la bonne solution, finalement, pour ne pas passer à côté, c'est ce qu'a fait le peuple juif. Il va toujours rester ce problème-là. Tu es pasiz. Pasiz, ça veut dire, peut-être tu es allé trop vite. Peut-être tu te trompes. Peut-être c'est pas ça le chemin. Cette stabilité, ou plutôt cette facilité de se déstabiliser, c'est la source de la plupart des midot ha'orot. C'est parce qu'on n'est pas sûr de soi, alors on est obligé d'affirmer une certitude. On ne veut pas être mis en cause. Mais si on est sûr, c'est pas grave. Lorsque je suis sûr d'être dans mon bon droit, celui qui m'attaque, j'en tiens même pas compte. Il y a plein de gens qui vous répondent, ah, tu as quelque chose contre moi, fais-moi un procès. Pourquoi? Parce que celui à qui on fait un procès, d'abord il est sûr qu'avant 10 ans, ça ne va pas lui tomber dessus. Et que les procédures vont décourager l'autre, donc il a une certitude. Il y a des gens, on ne peut pas les fréquenter dans les affaires, ils font n'importe quoi. Et quand vous leur reprochez, lui, fais-moi un procès. Ils ont une certaine stabilité. Comment est-ce qu'on peut retrouver le même genre de stabilité, mais dans le bon sens? La stabilité, elle est celle-ci. C'est vrai que le bon Dieu exige de toi des choses. La preuve, il t'a donné la Torah. Mais s'il exige de toi des choses, il doit avoir des repères. Et il doit avoir une façon de s'en sortir. On ne peut pas exiger tout le temps des choses. Et je n'ai aucun moyen, moi, de m'en sortir. Quel est le moyen de m'en sortir? Le moyen est très simple. C'est de me dire à chaque coup, si je suis honnête avec moi-même, si j'essaie d'avoir un comportement que je ne regretterai pas après, je n'y perdrai jamais. Qui t'a garanti ça? C'est mon Dieu. Ça... On n'a même pas besoin, quelquefois, d'être croyant pour le comprendre. En hébreu, ça s'appelle le Emet. Il y a des choses dont on sent qu'elles sont Emet, et on n'a pas peur de les affronter. Si on a peur de les affronter, c'est parce qu'on n'est pas sûr qu'elles sont Emet. Mais si quelqu'un était sûr que ce qu'il fait, c'est vrai, il n'a peur de rien. Aujourd'hui, c'est la mode de dire, c'est la force de dire non. On peut dire non à un système si on sait qu'on est dans la vérité. On appelle ça la désobéissance. Si je suis sûr de moi, je sais que c'est la vérité, j'y perdrai jamais. Le comportement Ben Adam la Chavero, c'est un comportement dur. Parce que je suis tout le temps agressé par les autres. J'ai tout le temps l'image de la réussite des autres. J'ai l'image de la réussite des médias. J'ai l'image de ma propre réussite qu'on m'a imposée. Et je me mesure à plein de choses. Si je sens que je suis dans le Emet, j'ai pas peur. David Ameler, il a dit d'une façon que nous répétons nous tous les Shabbats. Qu'est-ce qu'il a dit? Hachem roi lo ersar. Dieu est mon berger, lo ersar, je ne manquerai jamais de rien. Comment nous on peut traduire ça? Lui il a dit pire, gam pieder begel samavet lo irara. même si on me forçait d'aller, Geit Salmavet, on dirait nous la vallée de la mort, tu as traversé le désert, l'Oirara, j'ai pas besoin d'avoir peur. Kiata, il m'a dit parce que Dieu est avec moi. Qu'est-ce qu'on. Ça veut dire Dieu est avec moi. Ça veut dire que je pense que je suis dans le vrai. Si on pense qu'on est dans le vrai, il faut être occupé aussi à quelque chose de vrai. C'est ça qu'on appelle la stabilité. Si j'ai un programme, je suis attelé à quelque chose dont je pense que c'est vrai, les questions me diffèrent. Un jour, j'étais dans un colloque. À part moi, c'était tous des intellectuels. Et ils ont commencé à dire combien la Torah, c'était retardataire, combien on devait avoir de complexes par rapport à celui-ci, par rapport à cela, par rapport à cette pensée, par rapport à cette pensée, par rapport à cette pensée. Bon. Comment on en est parlé? J'ai parlé d'autre chose. Ils m'ont dit, mais ça vous embête pas hein? Finalement, on vous a peut-être froissé, on regrette. Je dis, moi, je suis qu'étudiant de la Torah. Je n'ai pas besoin de la défendre. Si c'était à moi, si j'avais quelque chose à perdre ou à gagner, alors ok. Mais moi, j'étudie. Que vous dites, c'est bien, c'est mal, c'est tout. Je verrai bien à la fin qui a raison. On n'est pas obligé de prendre en charge des choses que personne ne vous a demandé de prendre en charge. On peut très bien adhérer à des systèmes, mais on n'est pas obligé d'être représentatif du système et de prendre en charge. À chacun, on lui demande, depuis qu'il est tout petit, de prendre en charge une chose qu'on appelle sa réussite, qui est un modèle qu'on lui plaque dessus. Il est obligé de défendre sa réussite pas à pas pendant toute sa vie. Mais on peut dire à quelqu'un, mais je suis en train de réussir, j'ai pas encore réussi, laisse-moi tranquille. On n'est pas obligé d'être mis en cause, parce qu'on n'a pas réussi, je suis en train de réussir. Et si ça ne marche pas, je viendrai te le dire. Ça te sera content. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à ça? Il faut avoir des bases sûres, et des bases sûres, savoir un programme. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Si quelqu'un a un programme, il sait qu'il est en train d'apprendre certaines choses. Il sait que la vie, c'est fait pour apprendre et pas pour réussir. Il sait que la réussite, c'est un moyen. Qu'il est obligé de donner des comptes à personne de qu'il ait réussi ou pas réussi, si ce n'est à lui-même ou au bon Dieu. Il peut avoir un programme. Il n'est pas obligé d'être le plus grand sadique. Ça viendra. Mais le principal, c'est qu'il a un programme. Celui qui a un programme et qui s'attelle à quelque chose, il est presque invincible sur ce terrain-là. On ne peut pas le remettre en cause. Et la remise en cause, elle est perpétuelle. Et tout d'un coup, on va se rendre compte qu'on est prêt à faire certaines choses dont on ne pensait même pas qu'on serait capable. On va donner un exemple. Dans le Midrash, dans Vaïkra, dans la Parsha de Har, il racontait Maase be Rabbi Tanchuma. Rabbi Tanchuma avait été gozer internet. Il avait fixé un jour de jeûne parce qu'en Eretz Israël, on était arrivé au mois de janvier, il ne pleuvait pas. Les pluies ne sont pas tombées gazar tanit ararité. Il a fait un deuxième tanit. Non plus, ça n'a pas marché. Avant de faire le troisième tanit, il a réuni toute la ville, il a dit le chou veasu mitzvah. Allez et faites une mitzvah. Rashi dit, la mitzvah dont on parle ici, c'est la tzedaka. Tu aides les autres, le bon Dieu t'aidera aussi. Ok. Aou Gavra. Eh bien, monsieur, il a cherché un pauvre à qui donner. Il est allé dans les faubourgs. Il y a une dame qui lui a tendu la main. C'était son ancienne épouse. C'était bagarre avec elle. Il avait divorcé. Et elle a dit, de moi, je n'ai rien. Et c'est à cause de toi. Il lui a donné tout ce qu'il avait. Il y a un voisin de cette dame qui l'a vu. Il était en train de donner de l'argent à son ancienne épouse. Il est allé chez Rabbi Tanchuma. Il a dit à Rabbi Tanchuma, alors que nous on essaie de faire des mitzvot pour que la pluie tombe, lui, il est en train de faire du trafic avec son ancienne épouse. Parce que la halakha stipule que tu divorces, tu ne dois plus avoir de contact avec l'ancienne épouse. Rabbi Tanchuma l'a convoqué. Il lui a dit, qu'est-ce que tu faisais là? Il a dit, Rabbi, voilà. Elle m'a tendu la main. C'était la seule personne que je ne voulais pas rencontrer aujourd'hui. Mais j'ai pensé à un verset. Mishère de Sarcha al Titalem. Du proche de ta chair ne te détourne pas. Finalement, c'était ma femme. Bien qu'elle m'ait pourri la vie. Je me suis dit, elle est pauvre. Peut-être vraiment c'est à cause de moi. Peut-être vraiment je ne me suis pas connu comme il fallait. Et je lui ai donné tout ce que j'avais. À ce moment-là, a dit Rabbi Tanchuma, si on a des gens qui sont capables d'agir comme ça, alors c'est sûr que la pluie a tombé, veillard à mitra et à son moment la pluie. Comme ça, on continue. Qu'est-ce qui est marqué ici? Moi, on me dit, va faire une mitzvah, va donner la tzedaka. Je rencontre celui ou celle à qui non, justement, j'ai pas envie de faire la tzedaka. Mais si on me donnait encore une occasion de lui tirer dans les pattes, je ne sais pas si je ne me laisserais pas faire. Et je vais penser à un verset. Finalement, tu as vécu avec elle, chez Abou Sankhal Titalef. Tu as un lien qui a existé un jour, tu n'as pas le droit de rester insensible. Imaginez-vous un jour, vous voyez un couple, ils vont en réconciliation. Trois avocats de chaque côté, les contrats sont signés, tout est négocié, séparation, communauté, tout le truc. Et à la fin, le juge lui dit, la raison pour laquelle je ne veux plus vivre avec. Oui, mais il faut assumer, cher Moussakha, c'est à l'heure. Comment est-ce qu'on arrive à casser un droit? C'est quoi le droit? Quitter m'a pourri la vie, au moins de mon bel plus, ça y est, ça suffit. Je ne vais pas encore te donner ce que j'ai, alors que je crois être débarrassé. Comment est-ce qu'on arrive à dépasser ça, à casser ça? C'est en pensant que ce qu'on fait, c'est le émettre. Et si c'est le émettre, je ne risque rien. C'est ça ce qu'il dit David Amel. Hachem roi lo ersa. C'est pas que le bon Dieu, c'est ton berger, il va te prendre par la main. C'est pas ça. C'est que toi, tu peux faire d'Akadosh Baruch Hu ton berger. Si tu es dans le Emet, lo ersa, t'as pas besoin d'avoir peur. Ah, tu vas pas le voir tout de suite, tu vas. C'est pas grave. Mais le principe doit être là, lo ersa. J'ai pas besoin de risquer. J'ai pas besoin d'avoir peur. Je peux risquer. Je dois pouvoir changer ma façon de voir du tout au tout en une seconde. Rien que parce que quelqu'un m'a demandé de l'aider. Et même si je pensais que c'est la dernière personne que je suis obligé d'aider. Je peux avoir une attitude qui dépasse entièrement ce dont je suis capable. C'est ce qu'il dit David Améler. Gam ki eler begeit salmavet. Comment est-ce que tu peux traverser le désert? Tu peux pas. Tu peux traverser le désert. C'est-à-dire que tu peux risquer des choses dont tu penserais qu'on est en train de te détruire, de te pourrir la vie. Tu vas renoncer à tes droits les plus élémentaires. On arrive à le faire. La Gemara dans les Vamot, elle raconte. Rabbi Chia. Chacal soudrait l'idmitir. Il a passé devant un vendeur de foulards. Il a acheté un foulard pour sa femme. Amrolo Talmidam, ses élèves lui ont dit, ça devait être très connu. Veha kametzer l'elma. Ta femme, elle te fait des problèmes. T'es pas bien avec ta femme. Pourquoi tu l'achètes un foulard? C'est-à-dire que les élèves étaient étonnés. que la façon dont elle se conduisait avec lui, qu'il allait lui acheter un foulard. Il leur a dit, Dayo, Shemchanchot, et Vanenu, Umatsilot, Otanu, Minachet. On va essayer de traduire. Daya, ça lui suffit, ça veut dire, elle a déjà droit à tout. Pour deux raisons. Elle s'occupe de mes enfants. Et elle m'évite de regarder ailleurs. Ah, à part ça, j'ai des problèmes toute la journée. Je n'ai pas droit à plus. Je ne peux pas exiger plus. Quelqu'un a déjà rempli son rôle. On va lui dire à quelqu'un, tu sais, voilà, tu vis à deux, mais l'autre, du fait qu'il a rempli une certaine mission, il a droit à tous les droits. Tout le reste, tu ne dois plus rien, tu dois faire comme si ça n'existait pas, tu dois encaisser tout. Pourquoi? Parce qu'il a rempli son contrat. On ne te doit pas plus que ça. Normalement, on pense le contraire. Comment pensaient les élèves? Je ne vais pas faire plaisir à quelqu'un qui va encore trouver prétexte de ça pour me faire des histoires. C'est d'ici, Dayo. Dayo, ça veut dire je serai toujours en état d'infériorité vis-à-vis d'elle parce qu'elle a rempli son contrat. Elle a droit à tout maintenant. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire un truc comme ça? Parce qu'ici, il s'agit d'un comportement, c'est pas qu'on dit ça une fois. Il faut arriver à vivre comme ça. Comment quelqu'un peut arriver à vivre comme ça? Une seule chose, c'est qu'il sent qu'un jour, il pourra être propre et sentir qu'il est dans le Emet. Il n'a pas fait de bêtises. Voilà. Gam qui est l'herbe Getsamavet, l'Oirara. Pourquoi? Parce que Ataï m'a dit, j'ai une référence. Dieu est avec moi. C'est pas comme un enfant qui croit qu'on le prend par la main et puis chaque fois qu'il va aller vers le précipice, il y a quelqu'un qui va le sauver. C'est qu'il a une référence. Puisqu'il a une référence, à partir du moment où la référence, elle est émette, elle est juste. Donc maintenant, ce qui arrive, ça ne me concerne plus. Ah, je suis obligé de supporter ça, je suis obligé de supporter ça, je suis obligé de... Ça fait partie du métier, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'on peut arriver à un certain détachement qui va faire. La Gemara dans le traité de Souka raconte, il dit Amar Rabbi Shammai Yochai. Il dit, moi je pourrais être poter kol haolam kulo min hadin. Je pourrais faire qu'à Kadosh Baruch Hu soit obligé de juger le monde avec la Midat HaRachamim, pas de din. Depuis la création du monde, avec Yotam ben Uzziahou. Qui était Yotam ben Uzziahou? C'était un roi dont le père Uzziahou était lépreux. Et on l'a demandé de prendre les charges de son père. Il était donc juge en Israël. Il n'a pas pris la royauté alors qu'on l'a proposé. Il a laissé son père roi alors que son père était lépreux, qui était exclu du camp. Et il a exercé toute sa vie. Et chaque fois qu'il donnait une idée ou qu'il émettait un jugement, il le disait au nom du roi. Ça, c'était Yotam ben Uzziahou. C'est comme si je disais à quelqu'un, tu es président de la République, tu as tous les charges, mais le président, c'est l'autre. Qu'est-ce qu'on va me répondre? On va me dire, si j'ai les devoirs, j'ai aussi les droits. Si j'ai les difficultés et les charges, j'ai aussi les honneurs. J'ai aussi le plaisir que rapporte la charge. On va te dire, dans ta vie, voilà, tu vas faire ça pendant toute ta vie. T'es un père malade. Voilà, ben, c'est ton problème. Comment tu vas l'assumer? Tu vas tout dire en son nom. Tu vas agir en son nom. Il va rester en place. Mais c'est toi qui fais le boulot. Viens, Rabbi Shlomo Yochai dit, un homme comme ça, il peut demander à la Kadosh Baruch Hu de juger le monde entier de Midat Tarachanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment un homme est capable de faire une chose pareille? Si on va me dire, c'est l'amour filial, alors je vais regarder, il y a bien un traité qui traite de l'amour filial, et il y a bien avoir des limites. Si on me dit que c'est la mitzvah de tel et tel, bien je vais regarder, est-ce qu'il y a un traité qui traite de la mitzvah de tel et tel ou de la mitzvah de tel et tel? Il doit bien avoir des limites. Rabbi Tarfon, siégé au Sénat à Rome, il avait une mère qui était un peu malade. Et devant tout le Sénat, elle est venue, elle l'a giflé. Lui, il n'a rien dit, au contraire. Il a raccompagné gentiment. Comment quelqu'un peut en arriver là? Peut en arriver là si sa référence n'est pas l'autre. C'est qu'il a sa référence avec lui. À partir de ce moment-là, c'est sûr qu'il y en aura qui rigoleront, c'est sûr qu'il y en aura qui dira qu'il est faible, c'est sûr qu'il y en aura qui dira c'est des extrêmes. À partir du moment où j'ai ma référence avec moi, j'ai plus de problème. D'avoir ses propres références, c'était ça la difficulté du peuple juif. Moi je suis nazi, alors je me réfère en tant que nazi. Mais non, nazi c'est que la fonction. Nassi, c'est ce qu'on me demande de faire. Mais Nassi, ce n'est pas un statut. Tu es le prince. Reste de côté. C'est difficile. Il va jouer au prince. Un jour, il va croire qu'il est prince. Et il est vraiment prince. Non, il n'est pas vraiment prince. Le prince, c'est un rôle. Ce n'est pas une nature. On peut mettre l'autre prince aussi. Le fait de pouvoir, sans être détaché de soi, sans être quelqu'un de désincarné, mais d'avoir une référence stable qui est la sienne, ça fait que les midot raot, c'est-à-dire ce vers quoi on se laisse emporter, on peut arriver à rétablir la situation. Encore une fois, pour ça il faut avoir un programme. Pour ça, il faut savoir ce qu'on fait. Il faut avoir un centre d'intérêt. Et il faut avoir un plan et de savoir où on arrive et quand on arrive et comment on fait. Mais à partir de ce moment-là, on peut y arriver. La Gemara raconte qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Rabbi Preda. Il n'a pas eu de chance. Il a eu un élève qui était bouché. Pas bouché dans le sens charcutier, bouché. Ça arrive. On ne choisit pas toujours les élèves. Aya me chanelo, il lui enseignait Arba me hot parmi. 400 fois jusqu'à ce qu'il comprenne. Type, on te montre le théorème. 400 exercices, on vient de faire avec lui pour qu'il comprenne. Mais normalement, au moins, au bout de 400 fois, ça marchait. Yomachada, dit la grande un jour. Au moment où il venait de terminer l'enseignement, enfin l'autre avait compris, on allait l'appeler, l'Ivar Mitzah, on allait le déranger pour faire quelque chose. Ça a troublé l'élève. Quand il est revenu, il a dit, alors on continue, il a dit, non, j'ai tout oublié. Shinalo, od arvamotra. Il a enseigné encore 400 fois. Yatsta batkol ve'amra. Il y a une voix céleste qui s'est élevée et qui a dit, tu peux choisir du prédat. Ou 400 ans en plus, ou le Olam Haba. Ou le Olam Haba. Pour lui et toute sa génération. On va essayer de comprendre. D'accord, on raconte pas ça juste. 400 fois, c'est beaucoup. Mais on peut comprendre. Deuxième fois, 400 fois, sans s'énerver, c'est encore beaucoup, mais on peut comprendre. Il y a peut-être des gens qui ont fait ça. Mais est-ce qu'ils ont entendu des voix célestes ou pas? Est-ce qu'on va promettre l'Olam Haba, des machins, 400 ans de vie? C'est quoi ce truc? Peut-être que ça veut dire ceci. Rabbi Preda a pensé que c'était son devoir. C'est pas qu'il pensait qu'il est en train de faire une grande tova à l'autre et qu'il est quelqu'un d'extraordinaire et que le monde entier lui doit quelque chose. Il pensait que c'était son devoir. Lorsqu'un homme pense que c'est son devoir de s'occuper de lui, alors Akadosh Baruch Hu aussi pense que c'est son devoir de s'occuper de lui. Mais s'il pense que dans la vie, il y a des situations où on va faire plaisir à celui-ci, on va faire plaisir à celui-là, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu ne sent pas obligé de lui faire plaisir à celui-ci. Ça veut dire que la bat kol, c'est pas pour venir là à quelqu'un qui est quelqu'un de formidable. C'est que comme ça vient d'une notion qui existe, parce que on choisit pas les élèves, celui-là est bouché, ben il est bouché, on va faire quelque chose avec lui quand même. Alors le bon Dieu aussi, même avec ceux qui sont bouchés, il arrive aussi à faire quelque chose. Donc toi et ta génération, on va les mettre là-bas. C'est-à-dire qu'il y a une notion de droit, il y a une notion de devoir. Il n'y a pas seulement une notion de on va être gentil, on va ceci, on va cela. C'est pas on va être angélique. C'est que c'est un droit. Même celui qui a besoin de 400 fois qu'on lui répète, il a droit à avoir un professeur pour 400 fois. Alors celui qui fait ça, et de temps en temps il se laisse aller, il fait des avirotes, il fait des ceci, il fait des cela. Il a aussi le droit de dire au bon Dieu, ben tu vois, il y en a qui ont besoin de 400 fois pour comprendre. Moi aussi j'ai le droit, peut-être 400 fois, on ne m'a pas demandé, mais on m'a donné 50 fois devant. C'est comme ça qu'on peut comprendre ce qu'il a dit à Avraham Avinu. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, je vais t'ajouter à ton nom, je vais te choisir, je vais te bouillir, tu vas être le père de peuple. Il a dit, Vanori, Afar, Vaefer. Moi je ne suis rien, je suis qu'une poussière. Qu'est-ce que ça veut dire? T'es une poussière, t'es pas une poussière. Ça veut dire qu'un homme ne doit pas croire que c'est parce qu'il a une référence, il est au-dessus des autres. Parce que sinon, il n'y arrivera jamais. Parce que si tu es au-dessus des autres, et en plus, maintenant, tu vas le prendre un titre 400 fois, tu vas te dire, c'est ça la récompense de celui qui est au-dessus des autres, qui a tout compris, qui a une référence, qui est le plus malin, qui est le... C'est qu'à partir du moment où on le met dans une certaine situation, il doit comprendre que la situation elle est faite pour lui. Ce qu'il va en retirer, ça ne lui revient pas. Avraham Avinu a fait un choix. Et bon, il a fait le bon choix, on va te donner ça, ça, ça. Et puis non, alors qu'il va faire, va y faire. Moi, je ne vaux pas ça. C'est-à-dire qu'il avait conscience qu'il n'avait fait que ce qui était normal de faire. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Parce qu'il y a le piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est celui qui a une référence. Et il sent qu'il est dans la vérité. Il est extraordinaire. Et à ce moment-là, il a tout perdu. Parce que ça aussi, c'est une réussite. Il va être obligé de la valoriser. Il va être obligé de la prouver. Et il est retombé dans le même piège. La faute du vaudor, c'est ça. Ne cherche pas de solution. Tu n'as pas la solution. Même avec ton intelligence, même avec tout ça, tu dois comprendre qu'il y a des moments où il n'y a pas de solution. C'est pas grave. T'es pas obligé de tout savoir, t'es pas obligé de tout comprendre. Ça te concerne ? Bien sûr, ça concerne. Les explorateurs, c'est la même chose. C'est vrai que quelqu'un qui était dans une autre position, il va retrouver tout un chamboulement, il a tout intérêt à dire que on va laisser le statu quo. Ça, c'est la faute du vaudeau. Ça, c'est la faute des exploitants. Donc, nous, on doit comprendre que ces mots de réussite, ces mots que tout le temps entend, tout le monde, on entend tout le temps, on compte sur toi, on a besoin de toi, il faut que tu réussisses, il faut que cela. On n'est pas obligé d'adhérer à ce genre de choses-là. Mais on peut adhérer à ce qu'on entreprend soi-même. Chaque fois qu'on entreprend quelque chose, on acquiert une certaine stabilité qui fait qu'on peut être totalement déstabilisé de l'autre côté. C'est pas grave. Mais si quelqu'un est déstabilisé, que de l'autre côté il n'a pas quelque chose dont lui pense qui est le principal, il est fichu. On peut pas demander à quelqu'un d'exercer des midot sur rien. Exercer des midot sur rien, c'est quelque chose qui mène au non-sens. On te frappe sur une joue, tu vas tendre l'autre joue. C'est le non-sens. Tu vas frapper, je vais me défendre. Pourquoi pas? Et si je dois tendre l'autre joue, il faut qu'on explique à quoi ça sert. Est-ce que c'est nécessaire? Mais il n'y a pas de principe. D'exercer des midot, c'est impossible. On ne peut qu'avoir des références. On peut s'exercer 100 fois sur des petites choses, à être gentil, à être ceci, à être cela. Ça va marcher parce que c'est des choses absolues, normales. Il suffit d'avoir l'exercice, il suffit d'oser, comme on dit. Mais dans les choses importantes, dans les questions qui sont vraiment des questions, quand on se sent vraiment remis en cause, là on est obligé d'avoir une référence qui est stricte. Et même si la référence n'est pas du tout de nature du problème. Ben c'est encore un autre problème. C'est qu'on ne peut pas réussir dans tout. Et aujourd'hui, les sollicitations extérieures font qu'on est obligé de réussir dans tout. Et tout le monde sait qu'il ne réussit pas dans tout, qu'il ne peut pas réussir dans tout. Le problème, c'est d'en réussir dans quelque chose. Et qu'est-ce que ça veut dire réussir? Ça veut dire s'efforcer de faire quelque chose. C'est ça ce qu'on appelle la réussite. Le pouvoir ou l'avoir, c'est pas ça la réussite. C'est être attelé à une tâche. À partir du moment où je suis attelé à cette tâche-là, c'est mon truc à moi et le reste, ça m'intéresse pas. Si je ne suis pas attelé à cette tâche-là, ou que la tâche à laquelle je suis attelé, elle n'a pas de valeur, alors à ce moment-là, je ne suis rien du tout. N'importe qui me le montre et je suis perdu. Je suis obligé de réagir et on n'arrive plus à stopper le processus. Maintenant, on va essayer de comprendre le verset. Ad shiafua chayom venasu atzlalim. Le jour est passé, nasu atzlalim. Les zruyot sont partis. C'est quoi les zruyot? Naasev nishma. Le fait qu'en Égypte, le peuple juif, lorsqu'on a dit qu'il faut sortir, ils sont allés dans le désert. Tous ces engageants nasu sont partis. Je dis, mais quand même, j'ai fait quelque chose, je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas zéro. Mais j'ai tout remis en cause. Parce qu'à un moment où je me suis senti entièrement déstabilisé, je me suis dit, mon cher Rabbeinu est mort, on a tout perdu. Donc tu recommences à zéro. Tu n'as pas de référence. Donc tu recommences à zéro. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout ce qu'un homme a pu faire de bien dans sa vie, tout ce qu'il a pu élaborer, au moment où, à cause d'une question, il fait une bêtise, il a tout remis en question depuis le début. Venasu atzlali. Rachid dit, les ombres, c'est quoi les ombres? C'est ce qui me protège du soleil. C'est quoi? C'est ce que j'ai fait avant. Le peuple d'Israël a dit, Nasev Lishma. Il a dit, on va sortir des buts, on va aller. Mais au moment où tu poses la question, tu te dis, bon, parce que maintenant le bon ne répond plus, c'est à moi. Donc, sortir d'Égypte, ça n'a plus de valeur. Parce qu'il y a un moment de rupture maintenant. Le bon Dieu t'a oublié. Donc, ce que tu as fait, c'est caduc. Tu as accepté la Torah, mais il n'y a personne pour la descendre, parce que mon cher Abbé ne revient plus. Donc, on va retrouver le truc. Donc, maintenant, ça n'a plus de rapport avec avant. Venas ou Atzvel. À ce moment-là, on est obligé d'admettre. C'est comme une fatalité. Sauf Domelocha, Dodimitsu. La seule référence qui existe pour moi, c'est ce que Dieu m'a dit la Torah. À partir du moment où j'essaye d'innover parce que c'est plus une référence, C'est comme si je dis, oh mon Dieu, toi tu t'en vas. Sauf donner l'itzvi, l'offer à Yami, à la révataire, vers les horizons qui ne sont pas les miens. C'est quoi mes horizons? Moi je me prends en charge. Moi je vais trouver la solution. C'est à moi maintenant de parler. Ça veut dire qu'il y a marqué dans le verset. Il y a deux possibilités. Ou tu as une référence, tu t'accroches à cette référence. Et tu n'es pas obligé du tout de la justifier. Tu peux rester même dans ta référence pour avoir les plus grandes questions du monde. Parce que tu n'es qu'en train d'étudier cette référence. Tu n'es que quelqu'un qui essaye de faire quelque chose. Tu n'es jamais quelqu'un qui est arrivé à faire quelque chose. Ou alors tu te prends en main tout seul et tu n'as plus de référence. Sauf Domilitzi, ça veut dire qu'à Kadosh Baruch, on te propose dans la Torah, on te donne une référence. Il est parti, maintenant tu l'as chassé à l'Arevater, vers des montagnes qui le séparent de toi. Betarim, ça veut dire, il y a un côté et de l'autre côté. Brit Bena Betarim, les morceaux. Maintenant tout ça, on l'a cassé. Le pire, je veux dire le pire, c'est qu'on peut casser la Torah en la défendant. C'est qu'il ne faut pas croire que tous ceux qui essayent d'adapter la Torah aux questions que pose tout le monde et n'importe qui et n'importe comment, et souvent ils s'en sortent en ayant lâchant, en ayant lâché énormément de la Torah. Ils se retrouvent avec rien dans la main. C'est pas qu'ils n'ont pas l'amour de la Torah, ils ont l'amour de la Torah. Mais la Torah, c'est pas leur référence. La référence, c'est eux. Et toi, tu peux te retrouver devant un échec. Quelqu'un peut venir et doit pouvoir venir me dire, voilà, la Torah ne peut pas tout résoudre, c'est possible. Voilà un problème, est-ce que vous avez une réponse? Non. Ça ne remet pas en cause la Torah? Non. Ça vaut au moins qu'on joue, moi oui. Mais tout est relatif. Alors qu'il y a un fardeau à faire, je ne suis pas obligé de me prendre pour celui qui connaît tout et qui sait tout. Dommage, sorry. Si j'essaie de prendre les choses sous ma responsabilité, je suis obligé de dire, mais le monsieur a raison. La Torah telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'est pas praticable pour tout le monde. Il y a plein de choses qui sont occultées. Comme aujourd'hui, ça commence à être la mode de parler de méditation, de parler de plein de choses qui sont tout à fait extérieures à la Torah, mais qui peuvent très bien servir dans la vie. Et on vous demande pourquoi c'est pas dans la Torah. C'est que la Torah est incomplète. Alors il y a beaucoup de gens qui vous disent, oui, c'est oui dans la Torah, et puis on essaie de trouver. Mais la Torah, elle ne pouvait pas être communiste quand tout le monde était communiste, et libérale quand tout le monde redevient libéral. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde, on ne peut pas avoir un message universel. Et si tu n'as pas de message universel, tu n'as pas besoin d'être en cause toi-même. C'est la Torah qui est en cause. Laisse-le être en cause la Torah sans la faire. On n'est pas obligé de tout justifier. Il en est de même pour sa propre personne. Tu peux être en situation d'échec, tu n'es pas obligé de tout justifier. Je ne t'ai pas dit que j'étais le meilleur, je ne t'ai pas dit que j'étais le plus fort. La preuve, c'est que dans mes affaires, ou si je suis médecin, avant de donner un diagnostic, je prends 1000 précautions. Je vais m'en sortir pour pouvoir filer entre les doigts du client lorsque ça ira mal. Non, alors oui, le cavode, oui, la responsabilité, oui, ça, oui, ça. Ah, tiens, j'ai pris l'assurance, j'ai ceci, j'ai cela. Ah bon? Ah, là, tu es plus responsable. Ben non. Pourquoi? Parce que c'est dans le cadre de mon métier. Là, je suis à l'aise de ne pas être responsable. J'ai mon cadre. On doit pouvoir trouver son cadre. À partir du moment où on le trouve, on peut ne plus remettre les choses en cause. La faute du vaudor, la faute des explorateurs, malheureusement, c'est ce genre de choses qui fait que beaucoup quittent le peuple juif. Parce qu'il y a celui qui quitte le peuple juif par le Yetzer Hara, Pachout. On ne peut pas tout faire. Et j'ai envie de tout faire. Ok. Mais il y a celui qui quitte parce qu'il a des questions et qu'il a des problèmes dont il pense que c'était à la Torah ou au peuple juif de le résoudre, et qu'il n'a pas résolu. Et s'il n'a pas résolu, ça ne remet pas en cause le système. Parce que le système ne nous appartient pas. Le système, c'est notre référence. Si à chaque instant tu te demandes si c'est la bonne référence ou non, alors on te met par terre en 5-7. Mais si tu as établi une fois pour toutes quelle est ta référence, le fait que toi, tu ne sois pas au courant de tout, que tu ne puisses pas tout justifier, que tu puisses avoir des questions, c'est pas grave du tout. On doit pouvoir vivre comme ça. On va même pouvoir enregistrer les questions, on va les inscrire, et puis le jour où on étudie quelque chose pour la réponse, ben on vous le dira. Ça peut prendre 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il y a peut-être des questions qui sont en suspens depuis des centaines d'années, c'est pas grave. Anori, Afar Vaefer, moi, qui je suis. À partir de ce moment-là, on arrive à peu près à s'en sortir. Souvent des questions. Je vais vous dire, d'abord, si ces gens qui pensent être dans les maîtres, ils ne vous imposent pas leur idéologie, c'est déjà 50% de gagné. Ce que vous appelez une idéologie mauvaise, c'est que vous avez vu quelque chose qui était mauvais là-dedans, qui a tourné mal à la fin, ou qui était perdu depuis le début. Pourquoi est-ce que l'autre ne l'a pas vu ? C'est ça le problème. On doit poser qu'il y a un moment, on est obligé d'avoir des choix, on est obligé de faire des choix, et qu'on est obligé de les assumer. T'as mal fait ton choix, ta référence est mauvaise, tant pis pour toi. On doit poser qu'on est assez mûr pour essayer de déterminer quelles sont les choses qui ont de vraies valeurs ou non. Maintenant, on s'est permis de se tromper, on peut essayer, on arrête, on peut essayer autre chose, on arrête. C'est pas interdit de tâtonner. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où quelqu'un ne vous impose rien, mais que vous pensez qu'il s'autodétruit par son idéologie, on ne peut pas faire grand-chose, parce qu'il pense être dans les maîtres. C'est vrai. Maintenant, souvent, il y a des moyens de prouver que ce n'est peut-être pas si émettre que ça. Ça ne veut pas dire que toute cause est bonne à défendre parce que quelqu'un l'a adoptée pour lui. Il y a des causes qui peuvent être ridicules, qui sont basées sur des quiproquos, qui sont basées sur des erreurs d'interprétation. Moi, j'ai rencontré une fois quelqu'un qui était très très haut placé dans l'église et qui m'a dit qu'un jour il avait vu à la télévision une émission où un rabbin, on s'est mal dit, a démonté le christianisme du début à la fin et personne n'a jamais su répondre. Il dit, qu'est-ce que c'est ? Ce rabbin a dit, voilà, il existe un dogme dans l'église qui s'appelle l'Immaculée Conception. C'est-à-dire que le Père du Christ, c'est le Dieu lui-même. Très bien. Donc il ne peut pas être de la royauté de David, puisque pour être de la royauté de David, c'est par le Père, et lui n'a pas de Père. Si tu me dis maintenant que le bon Dieu est de la royauté de David, alors ça commence à aller mal. Voilà la question qu'il a posée. Comment pouvez-vous croire que c'est la royauté de David, ça veut dire que c'est la référence à ce qui est marqué dans le prophète Isaïe, et en plus, vous pouvez croire qu'il n'a pas de Père. Alors je lui demande, est-ce que vraiment personne n'a jamais posé la question ? Non, parce qu'il n'a jamais su que la royauté de David, ça allait d'après le Père. Donc il lui manquait quelque chose, il lui manquait l'information. Mais une fois qu'il a eu cette information, il était choqué que personne n'en parle. Donc il m'a demandé si moi j'avais entendu une solution. Je n'ai pas entendu une solution, je ne connais pas. Mais c'est vrai que c'est un peu embêtant, il y a un problème ici. On ne peut pas être le fils de David, ne pas avoir de père. Et si je vous dis la solution juive, elle est tellement embêtante que c'est encore pire. Parce que les juifs disent que c'était un mamzer. C'est vrai qu'il n'avait pas de père. Et c'est vrai qu'il était fils de David. Seulement, il n'avait pas le père qu'il avait. Alors, c'est plus honorable de remplacer le père par le bon Dieu plutôt que de remplacer le voisin. Donc, ils ont trouvé une solution. La preuve, preuve, c'est le nom. Le nom, si quelqu'un se fait un nom avec ce nom-là, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui est désespéré. Parce que le nom, c'est Yeshu. Tout le monde, tout celui qui connaît un peu l'hébreu, qui a déjà vu la Mishnah Gemara, il sait que Yeshu, c'est les initiales de Yimar Shemo Vezikro. Ça veut dire que soit effacé son nom et son souvenir. Alors si quelqu'un, avec un tel handicap, arrive à se faire un nom, c'est qu'il y a la place pour tout le monde. Et malgré tout, ça marche.
Abraham avait une grande question qu'il n'a jamais posée à beaucoup pour le sacrifice d'Isaac.
Ouais.
Et c'était, je crois, un peu la démarche.
Bon, ça, c'est quelque chose de vraiment très gros, attention. Hein. Ouais, c'est vrai.
Mais il n'a jamais posé la question.
Et absolument. Il n'avait pas la réponse.
Il n'avait pas la réponse.
Absolument. Mais nous, on n'avait pas là, attention. Hein.
Mais les enfants d'Israël n'avaient pas comme exemple l'histoire d'Abraham.
Ça, je vous dis. Il faut être à la hauteur. Il faut être à la hauteur. Imaginez-vous qu'un jour le bon Dieu vous parle et vous dise il faut les sacrifier tel et tel. C'est très embêtant. On n'est pas à la hauteur, non, on est sûr qu'on n'est pas à la hauteur. Maintenant, nous on n'est peut-être même pas à la hauteur non plus des Bnei Israël, où on leur a dit, voilà, la Torah elle va vous être donnée par Moshe Rabbeinu, il va descendre avec des louchotes et on voit qu'il ne descend pas. Peut-être nous non plus on n'est pas à la hauteur de ça. Je vais vous dire pourquoi on n'est pas à la hauteur de ça. Parce que chaque fois que on est confronté avec des gens qui mettent en doute le judaïsme, on essaie toujours de prouver que c'est vrai. Donc c'est qu'on n'est pas à la hauteur. On ne devrait pas être obligé de prouver. Et on prouve toujours. Donc nous non plus, on n'est pas à la hauteur. Qu'est-ce qui se passerait si maintenant il y avait une énorme question? La question la plus énorme. Tout le monde tombe sur nous. Parce qu'on passe notre temps à nous prouver qu'on a raison. Alors que c'est peut-être pas ça la démarche.
Alors l'obligation en l'idée d'Amamchitashiva Picoros.
D'abord, elle n'est pas pour tout le monde. Elle est pour celui qui a déjà beaucoup étudié. Et en plus, ça c'est dans les versets, dans les interprétations. C'est pas que toutes les questions, on peut répondre à tout. Et que nous-mêmes, peut-être la plus grosse, il n'a pas de question. Et moi, j'ai oui, une question. Damash HaShiva, c'est dans les psukim. Comment on fait pour organiser les choses? Il y a des styrotes, il y a des fois, il y a comme ça, il y a des comme ça. Ça, on doit savoir. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est encore une preuve que nous-mêmes, on peut vivre avec des questions. Lui, il ne peut pas vivre avec des questions, alors tu vas apprendre comment lui répondre. Mais c'est pour lui, toi, tu n'as pas besoin. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir vivre avec une question. Ça, c'est une preuve, justement, qu'on va pouvoir vivre avec une question.
Pourquoi est-ce que Marconi n'a accepté de discuter?
Alors, je vais vous dire. C'est pas qu'ils acceptaient, c'est qu'ils étaient obligés. D'abord, je crois qu'on espère toujours. Et ensuite, c'était le prix qu'on doit payer pour pouvoir vivre avec les autres. Parce qu'il faut savoir que dans tous ces, ce qu'on appelait les disputations, ils étaient obligés de gagner assez pour pouvoir survivre, mais de ne pas de trop gagner. Parce que s'ils gagnaient trop, ils étaient persécutés. Parce qu'on n'admettait pas qu'ils avaient raison. Donc il fallait ne pas avoir raison, mais ne pas avoir tort. Alors ils essayaient de maintenir cet équilibre-là, mais ils étaient obligés, ils n'avaient pas le choix.
Est-ce que vous pourriez expliquer, lorsque Moshe Rabbeinu favorisait les tables de la loi, la différence qu'il y a entre Chévout et Chévout?
Je ne sais pas si ça a rapport avec le fait de les briser ou non. c'est tout. Il y a marqué le mot charout à la lochot. Charout veut dire gravé, ciselé. Et la Gemara dit Altikra charout, mais dit cherout. Normalement, le charout, on le sent dans notre chair, on le sent dans notre personnalité. C'est quoi? C'est qu'on nous oblige à certaines choses. C'est pas que la Torah elle est gravée seulement dans l'étape de la loi, elle est gravée en nous, c'est imprimé en moi. C'est comme un carcan duquel je ne peux pas me libérer. Donc je penserai que la multiplication des mitzvot, c'est une privation de liberté. En vérité, c'est faux. Parce que les mitzvot, il faut comprendre que c'est un choix. Et qu'elles n'ont de valeur que si je ne le fais parce que moi, j'ai décidé de le faire parce que c'est une mitzvot. Et ça, ça augmente le potentiel de liberté d'une façon énorme. Ça ne le restreint pas. Maintenant, vous allez me dire, et c'est le contraire aussi, c'est que si tu fais faux, tu auras faux, tu vas être sanctionné aussi pour le coup. Ça, c'est le prix de la liberté. C'est que tu rends des comptes et tu risques les deux côtés. Mais ce n'est pas le contraire de la liberté. Ce n'est pas parce qu'on risque qu'on n'est pas libre. Nous, on pense le contraire. On dit, t'as vu, c'est une pression, je ne suis pas libre. Il faut assumer les erreurs. C'est là où est la pression. La pression, elle est d'assumer le système. C'est que dans la vie, il n'y a rien qui est innocent. On vit une seule fois, chaque chose doit avoir une valeur. T'as bon, c'est bon, t'as faux, t'as faux. Ce système-là, c'est un système de liberté, c'est pas un système d'oppression. Plus il y a de mitzvot, et plus on comprend que c'est un système de liberté. Par exemple, une fois on a expliqué, si au lieu d'avoir 613 mitzvot, il y en avait 3. Donc j'ai fait 3 coups, j'ai loupé 3 coups, je suis fichu. Mais comme il y en a 613, plus les drabanan, plus ces trucs, il y a des milliers de fois pour te rattraper. On ne peut pas avoir bon à tous les coups, mais on peut sûrement pas avoir faux à tous les coups avec tellement. Donc ça augmente encore le potentiel de liberté. Et ça n'augmente pas la charge. Parce qu'elle est de côté. Vous comprenez? C'est pour ça que la Gemara dit Tikra Charout, Meni Charout. Parce que dans le mot Charout, ça veut dire, bon, une fois que la Torah est donnée, ben voilà, je suis plus libre, je suis fichu, je suis. Non, c'est pas parce qu'on t'a dit de faire un choix et qu'on te montre où est-ce que et comment tu devrais faire le choix. Tu n'es plus libre, au contraire. Ça, c'est le sens du mot charout. Maintenant, attention. La Gemara, elle dit qu'il y a un autre sens encore. C'est que dans les premières louchot, le mot charout voulait dire inoubliable. C'est-à-dire que les premières louchot, si Moshe Rabbeinu les avait données au peuple juif, la Torah aurait fait partie de la mémoire collective du peuple juif dans toute son entité. Mais attention, elle n'aurait été pas sur la forme qu'on connaît, elle aurait été sur la forme de loi. Faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut faire ça. Compréhension zéro. Ça aurait été sous cette forme-là. Maintenant, le fait que les tables ont été brisées, on nous a donné ce qu'on appelle pilpoula chez le Torah. Ça veut dire qu'on ne peut accéder à l'assimilation des choses qu'avec l'étude des choses et la compréhension des choses, et la mémoire n'est pas automatique. C'est-à-dire que c'est extérieur à l'homme, c'est plus intérieur à l'homme. Avant c'était intérieur à l'homme vu. Après c'est extérieur à l'homme vu. C'est ce qu'on appelle la cassure, la brisure. Oulala, attention. Chaque fois que vous avez un choix, c'est la responsabilité. La différence quand on a un enfant et lorsque on a un adulte devant soi, c'est que lorsqu'on a un enfant, avant qu'il tombe, on le prévient. Mais lorsqu'on a un adulte devant soi, s'il tombe, il assume. lorsqu'il y a des choix, on n'est pas là pour vous dire, bon, c'est juste un jeu, et puis avant plus tard, on va te sauver. Tu assumes jusqu'au bout. Si ça marche, tu bénéficies. Si ça marche pas, tu payes. C'est ça l'adulte. L'enfant, c'est celui qui risque jamais rien. Parce qu'il y a toujours la maman pour l'éviter. Mais, parce que l'enfant, c'est que des essais. C'est qu'une préparation. Il y a un moment où il faut jouer pour de vrai. Pas toujours, l'artiste ne travaille pas toujours sans filet. Alors, avec filet. Maintenant que Dieu l'ait prévu, ça ne change rien du tout, parce que chez lui, il n'y a pas de temps, donc il prévoit tout. Mais du fait que moi, je ne sais pas ce qui est prévu, je reste totalement libre. Ouais.
Il fallait avoir un programme. Est-ce qu'on peut avoir l'idée de la nature du programme de chacun?
Parce qu'avant de partir.
Alors je vais vous dire, il y a un programme collectif et un programme individuel. Le programme collectif, tout le monde le connaît. Ça veut dire qu'il faut commencer par la Mishnah, par la Gemara, par... Il y a un programme. Le programme individuel, c'est ce qu'on fait tous les soirs. Tous les soirs, dans le Kriyat Shema Lamita, il y a marqué Ashanu, Baganu, Gazanu. C'est-à-dire que je dois faire le compte de ce qui s'est passé dans la journée. Il vaut mieux faire le compte avant, avant d'être toujours surpris par le compte du soir. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a des choses où on est faible, il y a des choses où on est fort. On doit utiliser les choses où on est fort pour corriger les choses où on est faible. Une fois on a dit, pourquoi est-ce qu'on met les tefillines sur la main gauche et pas sur la main droite? Parce qu'il faut arranger ce qui est faible. Ce qui est fort, c'est retoisant, t'as pas besoin d'arranger. Donc chacun sait ce qui est fort. Pire que ça, on a déjà dit une fois au nom du Gaon de Vilna, que si quelqu'un veut savoir ce qu'on appelle le shoresh de sa neshama, ce qu'il est obligé de faire dans sa vie, de spécial, parce que chacun a une autre approche de ce qu'on appelle la avoda. Tout ce qui était difficile, il y a des mitzvot qui nous sont incompréhensiblement difficiles. On les a fait une fois, deux fois, trois fois, mais la quatrième fois, c'est encore plus difficile. Et il y a des mitzvot qui sont incroyablement faciles. On court pour les faire. Alors, les mitzvot faciles, on va continuer à les faire, c'est très bien. Mais les mitzvot difficiles, c'est ça le choix de l'Anshama. Donc c'est ça qu'on doit essayer d'arranger. Ça, c'est le programme individuel. Maintenant, on peut se servir du programme collectif pour le programme individuel.
Chemin, je veux dire, on a une certaine stabilité. Alors j'ai peut-être été au-delà, mais j'ai compris une certaine paix intérieure. Et pourtant, enfin, les Gdolim, quand ils arrivent à Rosh Hashanah, ils trempent comme des feuilles. Donc il y a aussi une autre dimension d'angoisse qui doit exister, malgré le fait d'être ô combien dans le bon chemin.
Absolument. Vous avez raison de poser la question. Je vais vous dire. La paix intérieure, moi j'appelle ça la simcha, elle n'empêche pas l'angoisse, que l'on appelle ça la ira. La Gemara, plutôt c'est le Midrash, il nous dit ceci. Il y a marqué, Ivdu et Hashem, servez Dieu de simcha. Deuxième verset, Ivdu et Hashem, de ira, avec la crainte. Imbeira erbe simcha, imbe simcha erbeira. On ne peut pas avoir les deux en même temps. La Gemara dit oui, tu peux avoir en même temps. Au moment où tu pries, tu ébeiras parce que tu sais que ton sort est en main de Dieu. Mais finalement, ça te donne une certaine paix et tu es content de pouvoir prier. Ça, c'est la réponse du Midrash. Il va plus loin et dit Becha shata omed itmale. Quand tu te prépares à prier, tu dois être be simcha, bien que tu ébeiras, si tu as des choses à demander. Tu sais que les choses, elles sont sérieuses, c'est pas... She'ata mitpalel, le Elohim, she'en kamou. Tu sais que tu as la bonne adresse. Je vais vous donner même pire que ça. Un jour, j'ai entendu mon Roshi, le Rav Shach. Il a dit ceci. Il a dit qu'il était Erev Rosh Hashanah chez le Rav Mibriski.